L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Emmanuel Vivier, qui est le cofondateur du Hub.
Alors, Institute.
Du Hub Institute, effectivement, et du Hub Forum. Et c'est un peu particulier parce que Manu, en fait, je le connais depuis l'école. C'est lui, en 2005, qui m'a fait ouvrir un blog, parce que je cherchais du boulot à l'époque et qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'ouvres pas un blog ?» Donc, si on est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui, quand même. Donc voilà, et en fait, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, qui est, même si je n'aime pas le terme, la transformation digitale, parce qu'il vient de sortir un bouquin sur le sujet, déjà, pour commencer. Et puis aussi, pour discuter de où en sont les marques aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup d'experts qui parlent de transformation digitale, d'intelligence artificielle, de tout ce qu'on peut faire et c'est génial. Et puis il y a la réalité du terrain qui est forcément un peu différente. Toi, c'est quoi, parce que tu bosses avec pas mal de grosses boîtes aujourd'hui, en France en particulier, mais pas que. C'est quoi ton point de vue ou en tout cas ce que tu observes dans les boîtes?
Alors, ce que j'observe, bon, déjà, il y a quand même une grande différence entre les grandes entreprises et les ETI, les PME en France, en tout cas. Ouais. On voit qu'il y a un énorme retard. Il y avait une étude de la BPI dernièrement où, en gros, il y a 70% encore des PME ou des ETI qui ne voyaient pas ça comme une priorité ou une urgence.
Ça, c'est chaud.
Chez les grands groupes, en tout cas, en annonce, on va dire, la majorité a été sensibilisée, voire a pris position sur le sujet. Maintenant, effectivement, la réalité est souvent loin d'être au niveau des effets d'annonce de la direction.
C'est-à-dire, par exemple.
Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît difficile de ne pas s'intéresser au sujet ou de dire qu'on s'y intéresse. En même temps, j'ai envie de dire aujourd'hui, tout est déjà digital. Hein. Ouais. Finalement, on a du numérique un peu partout. Maintenant, il y en a encore beaucoup, je pense, qui voient le digital comme j'ai un site web ou j'ai un canal digital, au lieu de se dire que c'est comment je pense au futur de mon business dans un monde digital. Et ça, c'est un petit peu différent. Et puis, on voit que la direction, c'est compliqué pour elle parce que finalement, elle a fait toute sa carrière, normalement, en étant promu en maîtrisant un métier avant d'enchaîner le suivant, et là elle se retrouve tout en haut et finalement on lui demande de prendre des décisions lourdes, structurantes et chères sur des sujets, finalement la data, l'infra-IT, l'expérience client, le digital, le social, qu'elle ne maîtrise pas du tout.
Ils n'ont pas de conviction en fait.
Donc effectivement elle essaie de se renseigner, pour certains ils ont fait ce vrai boulot de se mettre à jour, pour beaucoup ils ont vaguement compris les enjeux et les sujets, et la réalité c'est que finalement ils maîtrisent pas si bien le sujet, donc c'est difficile de lancer, on va dire, toute l'entreprise dans une énorme bataille et de mobiliser des fonds conséquents si finalement on n'est pas très convaincu, on utilise peu soi-même le digital et on l'a pas trop utilisé pendant sa carrière.
Ça c'est clair, et alors du coup moi ce que je vois, c'est pour ça que je fais du coaching aussi avec des patrons, c'est pour leur donner des convictions, mais ce que je vois quand on parle de transformation, c'est qu'il y a deux étapes majeures, c'est une étape culturelle, c'est-à-dire convaincre les gens du chemin ou en tout cas d'intégrer le digital dans les métiers. Et puis après, il y a une deuxième évolution de la transformation qui est la transformation de business. Et en fait, il y en a plein qui sont encore bloqués à la première étape, en fait, c'est ça, non ?
Alors, dans l'ordre, on a même une étape avant qui était finalement un peu une pression du client ou du consommateur qui les a forcés à faire une très transfo, finalement assez légère, qui était un site web, des emailing, une app mobile, mais finalement on a mis quelques petits outils en place sans vraiment changer l'infra, sans vraiment prendre de décisions très lourdes. Ouais. Après on se rend compte que bah, finalement l'app elle est pas très responsive, que l'expérience client elle est pas très bonne, que et en fait que pour pouvoir faire ça bien, bah, va falloir changer la data, l'infra, et puis bah, du coup il va falloir surtout changer l'expertise et le savoir-faire en interne. Donc du coup il y a un changement culturel de la direction des équipes à faire. Donc il faut reformer les gens, les emmener, leur donner une compréhension des enjeux, une vision d'où on veut aller et les accompagner pour changer dans leur job. Et là, on voit que, bah, effectivement, il y a, enfin, c'est compliqué en fait, changer les gens, leur donner envie, leur expliquer les choses qu'ils maîtrisent pas, surtout s'ils ont passé 10, 15, 20, 30 ans des fois dans la même boîte, dans certains grands groupes du CAC 40 qui ont pas mal fidélisé leurs équipes. Ouais. Bah, apprendre à apprendre, accepter que avant on était chef parce qu'on avait un statut. Aujourd'hui, on devient plus coach et on va devoir continuer d'apprendre bien qu'on ait fait un super diplôme. Avant tout ça, c'est des barrières psychologiques finalement assez dures à passer. On veut bien changer la boîte, changer les autres, mais changer soi finalement, personne n'est très motivé.
Tu connais ce cartoon qui fait qui veut le changement et tout le monde lève la main, et qui veut changer et tout
le monde lève la main. Effectivement, c'est un peu ça. C'est personne n'est contre, mais au final, au day to day, ça veut dire changer peut-être ses locaux, changer les outils qu'on utilise, changer la taille de ses équipes ou de ses budgets. On va être très franc, personne ne voit ça, surtout quand on a mis toute sa vie à arriver en haut de l'entreprise. Personne n'a trop envie de laisser un CDO, un Chief Digital Officer d'un seul coup débouler, prendre une partie de vos budgets ou vos équipes.
Et puis aussi, ça veut dire que tu te mets en péril. C'est-à-dire que si tu prends des décisions quand tu es à ce niveau-là et qu'elles sont pas bonnes, et comme tu n'as pas de conviction, donc tu sais pas si elles sont bonnes ou si elles sont pas bonnes, bah, du coup, tu te mets en péril. Et quand tu es à ce niveau-là, tu n'as pas vraiment envie de te mettre en péril. Tu as juste envie de partir à la retraite avec, avec de l'argent.
Effectivement, à plus de 45 ans en France, retrouver un job, ça va être compliqué, surtout si on a un haut niveau de salaire. Et puis après, il y a ce côté, effectivement, on nous en voudra moins d'avoir continué le business ou l'améliorer incrémentalement que d'avoir testé des vraies choses risquées qui, en plus, peuvent payer finalement qu'au bout de 4, 5 ou 6 ans, des fois dans certains cas. Ouais. Et donc, il y a des chances qu'on soit déjà fait virer avant par ses actionnaires ou par sa direction.
Mais alors, du coup, toi, t'es plutôt pessimiste ou plutôt positif sur les boîtes en France ou...
Alors, je suis optimiste par rapport à l'impact de la transformation digitale, parce que je pense que la transformation digitale va quand même permettre d'améliorer plein de choses pour les clients. D'abord, on va avoir des meilleures expériences clients, des services qui vont plus vite, qui sont plus personnalisés, qui sont plus intelligents. Je pense que personne se plaint du succès d'Amazon, de Google, de Facebook. Enfin, on voit que tous ces outils nous facilitent
les consommateurs, non.
La vie. Après, est-ce que je suis pessimiste pour les boîtes? Oui, je vais être très franc. Je pense qu'aujourd'hui, je suis très pessimiste sur la moitié à trois quarts des grandes entreprises. Je pense qu'il y a encore une grande partie qui n'a... Enfin, bon, allez, on va dire peut-être 30% qui n'a toujours pas vraiment compris les enjeux. Mm-hmm. Et sur les 70% qui ont compris les enjeux, je pense que ce qui est très compliqué, même si la direction veut y aller, bouger plusieurs milliers de personnes ou dizaines de milliers de personnes, les reformer. C'est un peu comme si tu as deux équipes. Tu as une équipe start-up où les gens ils sont au taquet tous les matins, ils sont déjà super experts, super bons, ils se mettent à jour constamment, ils s'automotivent tout seuls, ils veulent tout défoncer. De l'autre côté, tu as une équipe où, pour la même course à pied, on est encore en train de leur expliquer qu'il va falloir aller courir, qu'il va falloir se mettre, va falloir s'équiper et essayer de leur donner envie. Les autres sont déjà partis en fait devant, donc on voit qu'on est déjà en train de prendre énormément de retard. Et puis il y a quand même une résistance. Hein. On est quand même dans un pays de syndicats, on est dans un pays où tout ce qui est nouveau fait un peu peur. En plus, le contexte économique et l'emploi passé un certain âge n'aidant pas, ça motive pas trop les gens à changer. Le problème, c'est qu'à force de s'accrocher au Titanic, il va couler quand même, quoi.
C'est clair. Et alors du coup c'est marrant parce que ce que je t'expliquais tout à l'heure, mais j'ai failli écrire un article là-dessus et je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, je pense, c'est qu'il y a encore 3-4 ans, quand les boîtes me disaient, vous savez, nous on est hyper à la bourre sur la transformation digitale, et je rigolais un petit peu en disant, vous savez, c'est pareil pour tout le monde, etc. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des boîtes qui sont vraiment en avance, des grosses boîtes. Et en fait, je pense qu'on commence à voir la différence entre des boîtes qui ont vraiment mis en œuvre les choses qu'il fallait faire et celles qui ne l'ont pas fait, en fait, et qui sont encore... effectivement à la bourre. Donc il commence à y avoir, et en fait c'est pas linéaire, c'est-à-dire que
il va y avoir un vrai décalage.
Ouais.
Alors je sais pas si elles sont en avance, mais en tout cas elles sont plus autant en retard et elles sont en train de l'accélérer très fort. Exactement. C'est vrai que si on prend Les Accor Hotel, les AXA, bon, L'Oréal qui a un peu plus de mal, mais en même temps qui va quand même toujours très bien, donc ils sont un peu moins motivés. Mais oui, on voit que ceux-là sont quand même en train de faire énormément d'efforts. Alors, ils font aussi des erreurs, hein, mais ils mettent des moyens conséquents. C'est vraiment incarné par une direction qui a une volonté affichée, un soutien, une exemplarité par rapport au management et aux employés. Et effectivement, faut être franc, hein, une transo, c'est vite 5 à 7 ans. Hein, embaucher les bonnes personnes, ça va déjà prendre un an. Le temps qu'ils fassent leur stratégie, qu'ils fassent les cahiers des charges, ça va prendre un an de plus. Qu'ils fassent l'appel d'offres, qu'ils commencent à lancer les choses, bon, on est déjà à 3 ans. Ouais. Que les chantiers qu'on va mener payent, ça va être 4 à 5 années.
Et même embaucher les bonnes personnes, moi j'ai vu tellement de gens extrêmement doués en digital aller dans des boîtes qui n'avaient pas envie en fait. Et du coup, ils ont placé des bonhommes comme ça qui étaient extrêmement bons, mais au final...
Faut être lucide, hein. Si vous arrivez en voulant essayer trop fort de changer les choses, vous allez ennuyer beaucoup de monde. Donc potentiellement, vous êtes attendu avec un fusil de chasse. On va dire, exactement, le directeur marketing, il a pas envie de perdre de budget. Le DSI, il a pas trop envie qu'on lui dise que ce qu'il a fait avant n'était pas bien. Ouais. La personne connaît pas forcément les us et coutumes de l'entreprise. Tout le monde a peur que dans le changement, il y perde. Et donc, beaucoup de gens vont tout faire pour que cette personne soit bloquée sur un sujet évangélisation, formation, soit que sur surtout, elles ne réussissent pas pour pouvoir dire « on vous avait bien dit que de toute façon, le digital, ça ne marche pas et on a bien fait de continuer à faire comme avant.
Ouais. » Et alors du coup, parce que bon, c'est une chose de critiquer, mais comment, selon toi, et même en se basant sur le bouquin, concrètement, c'est quoi les étapes et comment les marques doivent s'y prendre ? Enfin, admettons qu'il y ait des directeurs généraux qui écoutent ce podcast, j'imagine qu'il y en a quelques-uns. C'est quoi la marche à suivre ? Parce que parfois, on est... Moi, j'ai vu aussi des patrons de boîtes, je pense à Pierre Fabre ou à Vera Wang, par exemple, où j'ai coaché la patronne de Vera Wang, qui n'est pas très connue en France, mais qui est assez connue aux US. Elle était plus avancée que ses équipes, en fait. Donc du coup, c'est problématique parce que elle a envie, elle a bien compris, mais les équipes en dessous, pas vraiment en fait.
Alors dans le guide de la transformation digitale, nous on a identifié 6 chantiers. Donc il y a leadership, t'en parles, hein, il faut que la direction ait une compréhension, une vision, une volonté, une exemplarité, un soutien. Mais après très vite, il y a la culture et l'organisation. C'est comment j'emmène le reste de l'entreprise, alors des fois tous les salariés ou le middle management. Ensuite la techno, la data, l'expérience client et la performance. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en général, effectivement, il faut déjà que le COMEX, la direction puis le COMEX se mettent d'accord ensemble, donc entre le DRH, le DSI, le DG, le directeur commercial, le directeur marketing, le directeur digital, le directeur informatique, déjà tout le monde se mette d'accord. Une fois qu'au moins il y a une vision partagée et commune sur les priorités, on ne peut pas tout faire en un coup. Bien après, il va falloir être sûr que derrière, ça suive. Et c'est là où on s'aperçoit que des fois, vous allez interroger une entreprise, vous apercevez que les salariés ne connaissent pas la stratégie de la boîte, qu'on ne leur a pas expliqué, parce qu'en fait, le COMEX va vite tout seul dans son coin. Pour lui, tout lui paraît une évidence. Et donc, c'est là où il y a un énorme boulot de comment j'emmène idéalement toute l'entreprise. Là, chez TF1, Gilles Pélisson était au Web Forum et il expliquait comment aujourd'hui ils vont former 100% des salariés. Ça paraît dingue, mais il y a un moment, comment emmener toute une boîte vers une nouvelle destination si déjà tout le monde ne comprend pas le langage, ne comprend pas les notions, ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans l'audience ou chez
qui. Et pourquoi on veut y aller.
Ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, ensuite dans l'entreprise et ensuite dans son métier.
Bien sûr.
Donc, il y a un moment, les gens ne sont pas bêtes. Si on ne prend pas le temps de faire toutes ces phases-là, finalement, on va leur dire, va dans ce sens-là. Ils ne vont pas savoir pourquoi. Soit ils vont se braquer, soit ils ne vont pas y aller aussi bien que s'ils avaient compris pourquoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que ce boulot qui peut paraître un peu frustrant parce que ça prend du temps, on ne pourra pas réussir. Même si j'ai 10, 20, 30, 40 super experts dans un coin, si tout le reste de l'équipe ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire, on passe sentiment d'urgence ou cette envie ou cette volonté, ils font pas des miracles.
Et puis surtout, c'est pour ça que j'aime pas trop les équipes digitales. Pour moi, c'est une équipe d'accélération digitale parce qu'en fait, quand tu as des équipes digitales, j'ai vu ça trop souvent et chez L'Oréal entre autres, où tu vois, tiens, il y a une bannière, ça doit être les mecs de l'équipe digitale qui vont s'en occuper, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu remportes le problème, c'est-à-dire que tu le repousses un petit peu en disant,
C'est vrai que dans pas mal de boîtes, tu peux prendre la Poste, la Française des Jeux, etc. Souvent, ils ont essayé d'avoir des directions qui prennent pas juste le digital, mais qui vont avoir le marketing, le digital, des fois même les RH ou l'IT, sous leur direction pour qu'il y ait moins, justement, ces silos, ces luttes de pouvoir ou ces incompréhensions. Et que, effectivement, le digital, c'est juste finalement, on met du digital dans tous les métiers et c'est pas un métier en soi.
Exactement. Et alors après, c'est quoi les autres étapes? Pardon, parce que je t'ai coupé.
Alors, les autres étapes, une fois qu'on a, on a travaillé sur cette culture, ça va être ensuite, effectivement, choisir des priorités. On peut pas tout faire, ça prend du temps. On peut pas devenir innovant ou super digital. Et puis, j'aime pas le mot digital, on peut pas repenser le futur de son business finalement.
À l'ère digitale.
En quelques jours, en quelques mois. Donc là, il va falloir aussi accepter de se dire, bon, bah voilà, cette année, on va faire trois grandes choses. Déjà, si on les fait bien, si on emmène tout le monde, si on livre, ça sera déjà bien. Et c'est là aussi où il faut accepter des fois de démarrer par des fois des petits chantiers, des quick wins, pour rassurer les gens, leur montrer qu'on peut avoir des résultats sans se tuer à la tâche assez rapidement. Et ça va convaincre les moins convaincus, ça va permettre d'emmener les gens. Et puis tout doucement, on va aller attaquer la face nord en dernier et pas forcément en premier.
D'accord. Et après ?
Alors, bah après, là aussi, hein, une fois qu'on a lancé les chantiers, c'est s'assurer que, on va dire, on s'épuise pas en route, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent durer assez longtemps. Donc, c'est bien communiquer les avancées, c'est célébrer les succès, c'est aussi célébrer des fois les échecs ou les expérimentations qui n'ont pas toujours marché. Sinon, si les gens se disent que dès qu'on teste quelque chose de nouveau, si on se fait, c'est en gros, ça nous pénalise quand ça marche pas, bah personne va se mettre à proposer des choses. Donc, c'est ce droit à l'échec rapide, hein, c'est pas se planter complètement, mais c'est de pouvoir tester différentes choses. Et puis après, c'est jamais fini. En fait, on a l'impression qu'on va se transformer une fois et c'est bon. Non, c'est se mettre dans une dynamique où on va constamment innover, constamment optimiser, constamment mesurer. Et il y a toujours des nouvelles choses à lancer.
Mais alors, ce qui n'est pas très juste, enfin, ce qui n'est pas juste, c'est pas que c'est pas juste, mais bon, hein, on ne va pas s'appeler Camlimero, mais c'est que les plus gros travaux, finalement, c'est des travaux de fond. Par exemple, je pense à la base de données, tu vois, quand on parle de marketing et de com. Bah, travailler sa base de données, c'est majeur. Et en même temps, c'est absolument invisible. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, tu vois, c'est pas, c'est pas le truc que tu vas pas avoir un impact tout de suite, quoi.
Non, mais c'est clair que tout ce qui est lié à la data, tout ce qui est lié à l'IT, tout ce qui est lié à la logistique, tout ce qui est un peu le back-office, finalement, oui, ça prend du temps, ça coûte cher, c'est long, mais en même temps, c'est ça. Demain, on n'aura pas d'expérience client sur mesure, sans couture, omnicanal, si on n'a pas tous ces outils qui ont été mis à jour, qui sont capables de s'interconnecter, qui sont agiles en termes d'innovation. Donc, oui, c'est un peu injuste, mais en même temps, si aujourd'hui, Amazon ou d'autres, on les voit aussi flexibles, aussi agiles, aussi réactifs pour les clients, c'est parce qu'ils ont fait tout ce boulot-là. C'est un peu comme si on disait, j'arrête de faire du sport au bout d'un mois parce que j'ai pas tout de suite des abdos. Ça va se voir d'un coup au bout de 5 ou 6 mois, mais pendant 5 ou 6 mois, il faut accepter qu'au début, on s'entraîne tous les jours, qu'on n'a pas un bénéfice immédiat, mais il n'y a pas d'autre moyen. C'est, de toute façon, si on fait pas ces 5 ou 6 mois-là, il n'y aura pas d'abdos. Donc,
et qu'est-ce que tu penses de ces boîtes? Et ça peut être chez L'Oréal, mais c'est vrai un peu partout, qui achètent des startups.
Alors, je pense que c'est comme partout. Hein. Beaucoup de boîtes ont un petit peu les mêmes stratégies. On va faire une learning expédition, on va faire de la formation, on va faire du reverse mentoring, on va faire un incubateur de startups, on va prendre des parts dans les startups. Donc, tout le monde innove, mais finalement, en faisant la même chose. Donc, est-ce que c'est très innovant? Je ne sais pas. Bon, après, je pense qu'en soi, toutes ces idées-là ne sont pas mauvaises. Maintenant, est-ce que je le fais parce que j'en suis persuadé que j'ai une vraie stratégie, ou est-ce que je le fais parce que c'est l'air du temps et que tout le monde a un incubateur? Alors, il faut faire un incubateur, tout le monde a pris des parts dans les startups. Après, je me dis, c'est pas le pire des défauts. Il y aura forcément des investissements qui servent à rien, il y aura forcément des erreurs, mais vaut mieux qu'il y ait des erreurs parce qu'on a essayé trop de choses et tout n'a pas marché, mais on aura quand même appris des choses, on aura quand même récupéré certaines compétences en interne, on aura monté son niveau de connaissances, plutôt que de ne rien faire où là c'est garanti et sûr qu'on va se planter.
Ça, c'est sûr.
Donc évidemment, acheter des startups, dans certains cas, ça peut être se protéger d'un futur concurrent, ça peut être surtout d'apprendre avec finalement une entité, c'est les racheter qu'on l'a pas tout de suite mixé avec équipes, où on lui laisse un petit peu de champ pour pouvoir se développer. C'est aussi soi-même se faire une idée avec des experts, c'est acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux talents qu'on n'aurait peut-être pas pu réussir à attirer si on avait juste proposé de les recruter. Donc je pense que pour plein de raisons, oui, ça peut être une bonne chose. Maintenant, combien de moyens je mets par rapport à mon chiffre d'affaires, et est-ce que je le fais plus pour prendre des parts dans une start-up que je vais essayer de se développer toute seule, ou est-ce que je veux me l'accaparer? C'est une vraie question.
Moi, j'ai la sensation que l'erreur que font les grands groupes, c'est d'acheter des startups et d'essayer de les modeler comme elles sont, elles, déjà, plutôt que d'essayer d'apprendre d'elles. C'est-à-dire que quand tu regardes, par exemple, Facebook, qui est pour moi un super exemple, avec Instagram, qui était quand même une bille en mobile, à la base, ils n'arrivaient pas à faire la transformation mobile et qu'ils ont racheté Instagram assez cher finalement pour une boîte de 7 personnes. Ouais. Et WhatsApp derrière, tu vois, assez cher pour des boîtes où il y avait très peu de monde. Mais n'empêche qu'ils ont fait leur transformation mobile. Donc en fait, ils ont transformé, ils ont pris le petit et ils se sont transformés comme eux versus de je prends le petit et je t'intègre dans ma structure. Ce qui n'est pas la même, qui est pas la même démarche en fait intellectuelle.
Ouais, mais c'est un peu comme si tu as un bus et tu rachètes un scooter à côté. C'est un peu compliqué. Enfin, ouais. Quand tu as une taille et des process hyper lourds, c'est toujours très délicat quand tu rachètes une boîte légère, agile et petite, de lui donner des moyens sans la tuer non plus, avec les obligations, lui mettre SAP ou un système de facturation ou des nouvelles contraintes pour recruter, c'est compliqué. Après, je pense quand même que ça fait maintenant 4 à 5 ans que les grands groupes commencent, selon les grands groupes, à s'intéresser aux startups et que certains ont déjà fait des erreurs. D'ailleurs, certains avaient déjà fait des erreurs en 98-2000. Alors, des fois, c'est pas eux qui ont tué, c'est le marché qui a tué leur startup. Mais là, je pense qu'il y en a qui, de plus en plus, justement, ont un incubateur pour les acheter, mais les laisser quand même suffisamment autonomes. On en voit aussi qui rachètent des startups, mais les laissent dans leurs locaux, les laissent se développer, l'utilisent plutôt comme un laboratoire extérieur pour tester des idées et des choses. Ouais. Et je pense que quand même, il y a un respect mutuel qui est un peu meilleur. Si on regarde Vivatech, par exemple, cette idée de les grands groupes payent pour faire venir les startups. Mmh. Et c'est un échange de bons procédés entre les deux. Le succès viendra d'un mix des deux et d'une capacité à travailler ensemble. On voit bien que les startups toutes seules, à un moment, il n'y a pas 50 acheteurs en Europe ou pour lever des fonds, et on voit bien que les grands groupes, oui, aujourd'hui il faut qu'ils aillent chercher de l'innovation, des idées, des talents ailleurs que chez elles.
Et alors du coup, en deux minutes, la deuxième étape, c'est quand même de transformer son business. Après qu'on ait fait la culture, qu'on ait convaincu tout le monde, etc., c'est comment je transforme mon business à l'ère digitale. C'est à dire qu'est-ce que tu vois, typiquement tu as pris l'exemple d'Accor ou de L'Oréal, je pense qu'ils font extrêmement bien ce boulot. C'est quoi, enfin, comment tu t'y prends en fait? C'est quoi les questions à se poser? C'est quoi le...
Bah, les questions à se poser, c'est déjà de se poser tout le temps des questions, c'est de remettre en cause constamment tout ce qu'on a appris. C'est peut-être que, enfin, c'est déjà diversifié, je pense, les choses. C'est aujourd'hui, si on prend Accor, ils ont plusieurs business models avec One Fine Stay. Ils vont aller concurrencer Airbnb, mais sur du haut de gamme. D'ailleurs, ils commencent à racheter des hôtels sur du haut de gamme. Ils restent aussi le milieu de gamme. Donc, c'est aussi se dire se diversifier parce que, typiquement, dans ce domaine-là, les investissements sont quand même des fois 3, 4, 5, 10 ans. Où en sera le marché dans 10 ans? On n'en sait rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on doit être capable d'être sur différents segments de marché avec différents business models, des fois de l'abonnement, du paiement à l'acte, du financement par la pub, et qu'il faut être capable en tout cas de réagir très rapidement si on détecte quelque chose. Donc c'est plutôt se mettre dans une capacité à identifier des nouveaux segments, des nouvelles innovations, des nouveaux marchés, et être capable de se placer, peut-être pas le premier, mais en tout cas très rapidement quand on voit qu'un marché prend, donc avoir des capitaux pour pouvoir les mobiliser, avoir des équipes très agiles pour innover techniquement, ou prendre des participations, ou pouvoir répondre à une nouvelle... Donc c'est finalement aller vers l'entreprise agile, on va dire. Là, on n'est plus en train de digitaliser son business, on est en train de carrément d'agiliser son business pour pouvoir répondre de manière rapide au changement du marché.
Et c'est pas simple. Et alors ce podcast, il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui? Plutôt à quoi en général, mais...
Alors, moi, je voudrais claquer la porte aux directions qui disent qu'elles font de la transo, mais qui n'en font pas. C'est un peu la transo Canada Dry, hein. Ça ressemble à la transo, ça a le goût de la transo, mais en fait, quand t'enlèves la pub ou la mousse, tu t'aperçois que derrière, il n'y a pas grand-chose. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut être très lucide. C'est un énorme effort. C'est dur, c'est compliqué, ça va coûter de l'argent, mais si vous n'avez vraiment pas envie de le faire, alors vous n'allez peut-être pas vous auto-licencier, mais en fait, vous prenez des risques énormes pour votre entreprise, pour vos collaborateurs, parce que tout simplement demain, si vous ne les préparez pas, si vous ne faites pas évoluer le business model, si vous ne faites pas évoluer leurs compétences hard skills et soft skills, penser différemment, nouvelle posture, nouvelle façon de faire, vraiment, effectivement, demain, vous envoyez à la casse des fois des très beaux business ou des très belles activités, juste faute de leur apprendre à apprendre, de leur apprendre à changer et à évoluer pour le futur.
C'est marrant, il y a Claude Chaffiot, c'est le président
d'Accenture
Digital, qui disait qu'ils ont fait des stats et il y a 25% des boîtes françaises qui ont un budget de transformation digitale. Mm-hmm. Ça veut pas dire qu'ils n'investissent pas dans le digital, mais il n'y en a que 25% qui ont un budget dédié à la transformation digitale. Donc c'est
un bon exemple. Hein. C'est, si tu n'as pas de budget, finalement, tes annonces, ça reste des annonces.
Ça reste un peu du bluff, quoi. Merci beaucoup Manu.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues.
Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.